mes frères et mes sœurs. Et ma question, what do I say, ma première question, the first one I have for you, what is it?
La première question que j'ai pour vous,
I have trained you well.
Je vous ai bien entraîné.
Hein? Have you been
marinating?
Yeah. Who has not been marinating?
Qui n'a pas mariné? Je veux vous humilier ce matin.
You all have been marinating. All right.
Vous avez tous mariné, très bien.
Très bien. Today,
aujourd'hui,
we get into a every day as we're getting into part of
tous les jours, alors qu'on rentre dans la prière que le Seigneur nous a donnée comme un motif, comme une suggestion, une aide.
C'est moi qui reprends, désolé. Alors, je vous avertis. Aujourd'hui, je vous donne un avertissement. À la fin du culte, je vais vous demander de faire quelque chose d'un peu différent. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez dit vous êtes prêts. Alors prions. Père, merci pour cette opportunité d'être ensemble, de te célébrer, pas juste quelque chose de temporaire, de moindre signification, de moindre sens, mais nous venons en ton nom et dans tout ce que ça signifie et ce que ça représente. Et nous venons aujourd'hui à cause de toi, parce que tu es vivant et j'espère que tout le monde peut le dire ici, que tu es dans nos cœurs et que tu vis par nos vies. Alors Seigneur, nous voulons plus de toi aujourd'hui pour que nous puissions encore plus être ton disciple engagé. Alors merci parce que tu es avec nous, tu es en nous. Merci pour ce que tu vas faire parce que nous ouvrons nos cœurs à toi ce matin. Et le peuple de Dieu dit Amen. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc c'est au verset 5 du chapitre 6. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Maintenant, priez avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ton nom soit sanctifié. Dites ça avec moi. Que ton nom soit sanctifié. Les mots ont une puissance. Un mot est par définition le symbole d'une idée. Les idées sont puissantes. C'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que nous gérons. Nous ne pouvons pas vivre sans idées. Quand nous disons des mots, ils ont une puissance. Jacques nous rappelle cela. dit que la langue peut utiliser des mots pour démarrer même un feu. Ils peuvent détruire. C'est puissant. Dans le chapitre 3 de Jacques, quand nous allons dans le chapitre 4, verset 29 de Éphésiens, Paul nous rappelle que la langue peut aussi être utilisée, que la langue peut donner des mots de grâce. Les mots peuvent donner la grâce. Répétez ça avec moi. Les mots sont puissants. Quelle est la différence ? La seule différence, c'est qui donne l'onction du mot. C'est à qui nous donnons la permission d'utiliser le mot. Si je donne un mot malveillant avec de mauvaises intentions à quelqu'un d'entre vous, je donne la permission à l'auteur du mal de l'utiliser contre vous. Est-ce que c'est sérieux, ça ? Oui, c'est sérieux. Quand je dis un mot par amour pour vous, alors je donne la permission au Saint-Esprit. C'est comme si je demandais au Saint-Esprit d'utiliser ce mot, de le oindre, d'y mettre de l'onction. Les mots sont puissants. Alors Jacques aussi a dit dans le chapitre 1, soyez lent à parler et soyez rapide à quoi ? À écouter. Nous avons deux oreilles et une bouche. Quelqu'un a dit que nous devons écouter deux fois plus que de parler. Je ne sais pas si c'est une bonne loi, mais je trouve que c'est un bon conseil. Ce n'est pas un mauvais conseil. Alors, dis à la personne à côté de toi, tu peux me blesser. Dis à la personne à côté de toi, mais tu peux me bénir. Les mots sont puissants. Puissants. Alors, si les mots ont une puissance, les noms aussi ont une puissance, parce que les noms sont des mots. Alors, je ne sais pas si les Français ont cette expression. Trevor, peut-être toi, tu peux me le dire, tu es l'expert. Les bâtons et les pierres peuvent briser mes os, mais les mots ne me briseront pas. Vous n'avez pas ça en français, non ? Vous n'avez pas ce problème-là ? Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand les enfants disaient ce dicton. Mais vous savez, c'est un mensonge. Les mots peuvent nous faire du mal profondément. Les mots ont une puissance. Une puissance énorme. Dieu a même changé les prénoms des gens. Et je suis sûr que vous pouvez en citer quelques-uns dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Qui dans le Nouveau Testament ? Jésus a changé son nom. Qui ça ?
Simon.
Simon. Il l'a changé en Pierre. Plusieurs. Quand tu commences à y penser, tout d'un coup, tu te dis, waouh, il y en a plus que je n'imagine. Et Dieu donne des prénoms aussi pour annoncer un changement qui va avoir lieu, ou alors pour dire ce pourquoi la personne va être utilisée. Ça a vraiment un sens puissant. Certains ont nommé vos enfants pour cette raison. Dieu a mis sur vos cœurs le prénom de ce que l'enfant, le prénom que Dieu veut pour l'enfant. Et c'est ce que nous avons fait pour nos enfants. Et c'est impressionnant de voir ce qui s'est passé. Les prénoms ne sont pas magiques. Nous ne parlons pas de superstition. Nous parlons de ce qu'ils représentent, de ce qu'il y a derrière, de la puissance qu'il y a attachée à ce nom. Les prénoms sont juste des moyens pour porter un sens. Vous savez, les intentions de nos cœurs sont puissantes. C'est puissant. Alors dis à la personne à côté de toi, attention à tes mots. Fais attention à tes mots.
Okay, we're done. We can go home now.
C'est bon, on a fini, on peut rentrer chez nous maintenant.
But let's take it a step further.
Mais prenons un pas en avant maintenant.
His name,
nous pouvons dire que son nom, pour sûr, a de la puissance. Les mots ont des puissances, les prénoms ont des puissances, et le nom de Dieu aussi, à cause de ce que cela représente, de ce qu'il y a derrière. Et à cause de la manière dont nous l'utilisons. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça récemment? Son nom principal, c'est quoi?
Yahweh.
On dit Yahweh. On utilise aussi le Seigneur avec une majuscule en S. Ça représente tous ses autres noms, tous ses autres attributs. Alors, nous faisons appel à son nom. Quand nous faisons appel à son nom d'un cœur sincère, qu'est-ce qui se passe? Nous nous connectons avec ce que représente ce prénom ou avec les noms que représente ce prénom. Tu vois? Et l'Esprit travaille avec nous ou au travers de nous. Alors, pourquoi je deviens si théorique ce matin? Pourquoi? Regarde à la puissance de son nom. Regardons alors un peu plus à cette leçon de linguistique. La puissance de son nom a vraiment une puissance. Tu le vois dans l'Écriture. Les démons criaient et quittaient leurs hôtes à la mention du nom de Jésus. Et rien que la présence des disciples aussi, des apôtres, faisait fuir les démons. Ah, Seigneur, que nous soyons de même, que sa puissance soit si pleine en nous, si libre en nous et au travers de nous, que les démons fuient, nous n'aurions même pas besoin de dire un mot. Seigneur, que ceci soit pour nous aussi. C'est la même chose aujourd'hui que hier. Prenons ceci sérieusement. Nous sommes dans un combat, dans une guerre, les amis. Quelqu'un a dit, les amis, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de porte de sortie. Armez-vous. Si vous dites Jésus, vous êtes contre un ennemi. Vous n'avez pas le choix. Mais nous n'avons toutes sortes d'espérances parce que nous avons le conquérant à nos côtés, le victorieux. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas besoin de craindre. Nous avons la victoire. Ne blâmons pas l'ennemi, le diable, de tous les maux parce que notre propre chair aussi à ses responsabilités. Dans l'autorité de son nom, les yeux des aveugles ont été ouverts. Les jambes desséchées ont été guéries. Les morts ont ressuscité. Imaginez. Mais les amis, rappelons-nous que la puissance derrière le nom est exactement la même chose aujourd'hui. It's no different. Il n'y a pas de différence. Les amis, je vous encourage. Si vous avez des problèmes, des guerres pendant la semaine, mentionnez le nom de Jésus. Si vous êtes en connexion avec Jésus, vous pouvez faire appel à lui avec autorité. Juste dire son nom fait fuir l'ennemi et change les situations même. Si Martin Luther l'a fait, je pense que nous pouvons essayer. Il a aussi, une fois, pris un... Alors, je ne sais pas si c'était une pierre ou quoi, mais il a jeté sur un mur. Enfin, c'était pour le faire sur le diable. Il a jeté une pierre et il y a même encore la marque aujourd'hui de cette pierre sur le mur. Mais vous savez, nous oublions ceci. Les mots aussi ont une puissance pour le mal. Quand nous utilisons le mot de Dieu de manière désinvolte, quand nous l'utilisons pour condamner quelque chose, nous mettons en place quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. Nous devons prendre de manière sérieuse la puissance des malédictions, parce qu'elles sont puissantes. Vous vous souvenez, les disciples de Jésus, dans Luc 9, ils allaient en Samarie, et les Samaritains ont vu qu'ils allaient vers Jérusalem. Les Samaritains se disaient, oh là là, non, non, ils avaient une haine vraiment l'un contre l'autre. Les Samaritains, ils n'auraient pas laissé les disciples passer par la Samarie. Et les disciples ont dit, « Ah, Seigneur, est-ce qu'on ne devrait pas faire descendre le feu sur ces Samaritains ? Faire descendre le feu du ciel ? Où était leur cœur à ce moment-là ? » Et on se dit, « Oh là là, ces gars, qu'est-ce qu'ils pensent ?» Et vous savez quoi ? Je suis sûre qu'à l'époque, si nous y étions, on aurait peut-être pensé ou dit les mêmes choses. Moi, je l'aurais peut-être pensé, mais je ne l'aurais peut-être pas dit, mais je l'aurais pensé. Quelle est la différence ? Abuser la puissance de ce nom. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il s'est automatiquement retourné vers eux et il les a repris. Et il a dit non, non, non. Ou alors, approchons-nous un peu plus, rapprochons-nous de la maison. Peut-être des prières un peu paresseuses ou un peu désinvoltes. On dit, ah, Seigneur, bénis les missionnaires et après, on va aller manger. Plutôt que de vraiment rester dans la prière et passer du temps à prier pour les besoins d'une personne, pour leurs besoins, et oublier ou ne pas prendre le temps pour vraiment s'attendre à Dieu dans la prière. Il y a aussi autre chose, les ragots. Nous mettons un peu de Dieu dedans pour rendre ce ragot bon à nos yeux. Par exemple, en disant, « Oh, elle est paresseuse, que Dieu la bénisse !» Ou bien, « Oh, il a un problème, lui. Hein. Oh, prions pour lui, que Dieu le bénisse !» Nous abusons du nom de Dieu pour adoucir le mal que nous commettons. Seigneur, aide-nous. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi ? Son nom a une puissance. Dans les deux sens. Soyons sûrs que nous le sanctifions, que nous le faisons vraiment, nous le mettons à part ce nom à cause de ce qu'il représente, à cause de qui est derrière. Alors pourquoi est-ce que nous prendrions son nom de manière désinvolte Est-ce que c'est, n'est-ce pas intéressant de voir que c'est un des 10 commandements? Sanctifie son nom, n'abuse pas de son nom, n'utilise pas son nom en vain, ne l'utilise pas de manière inutile, ne le rend pas, ne lui donne pas une valeur moindre. C'est la signification du mot hébreu. Ne le prends pas de manière légère ou ne le rends pas vide de sens. Si je profane quelque chose, si je le traite de manière légère, je lui donne vraiment une toute petite valeur. Je le traite comme quelque chose de, peut-être même de valeur moindre que ma propre valeur. Je vous parle, les amis, et je me parle à moi aussi. Pourquoi est-ce que Dieu fait ceci? Qu'est-ce qu'il fait en nous donnant ce commandement à ce sujet? Son nom représente tellement de choses. Si nous ne respectons pas ce nom, nous ne le respectons pas lui. Nous le mettons à un niveau inférieur à nous-mêmes. Ne manquez pas ceci. C'est ce dont ces 10 commandements parlent. Vous savez, Dieu n'essaye pas d'être légaliste, mais il essaye de nous sauver de désastres, de nous sauver de mauvais choix qui nous mettraient en difficulté. C'est parce qu'il se soucie de moi qu'il me donne ces règles-là. S'il ne me donnait pas ces règles, nous ne ferions pas les choses qui sont bonnes. Nous avons besoin de la loi de Dieu pour nous rappeler les choses. Dieu n'est-il pas un Dieu bon? Est-ce que je peux avoir un amen ou un voilà? Donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Même là, nous voyons son cœur. Son cœur aimant, il essaye de nous garder de la souffrance. Il essaye de nous. Il veut vraiment que nous ayons la vie abondante et qu'il ait la gloire qu'il mérite. Alors, comment est-ce qu'on sanctifie son nom? Regardons à ça et après nous conclurons. Il y a 2 aspects à cela. Pour que vous preniez le TGV pour aller à Paris, je crois que ce serait plus rapide, non, si c'était sur un seul rail plutôt que de 2, non? Il y aurait peut-être moins de friction, juste être sur un rail. Mais il y en a 2 pour la stabilité et pour la direction. Regardons à cela. Donc il y a 2 rails pour le chemin du train et ces 2 rails sont nécessaires pour le train de la sanctification de son nom. Le premier rail, c'est l'expression d'un fait. Le fait de la sanctification de son nom. Pour l'Église primitive, sanctifier, ça voulait dire mis de côté, l'opposé du commun. Par exemple, les instruments utilisés pour le temple. C'est pour ça qu'on dit que son nom est saint, sanctifié. Ça veut dire qu'il est mis à part. Il est saint, sanctifié, très spécial, comme aucun autre, comme rien d'autre. Amen. Il n'y a personne comme lui. Et nous voyons même cela de manière plus visible quand nous regardons à son prénom. La linguistique nous dit tellement de choses. Vous vous souvenez dans Exode 3, et quand Moïse dit:
The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, well, what's his name? You know, almost mockingly, well, tell us his name, so we're convinced. Then he said, what do I tell them?
And you c'est quand Moïse dit, mais qu'est-ce que je dirais aux Israélites?
Exodus 3, he said first to Moses, I am that I am.
Je suis. Donc tu voilà, donc c'est verset 14. Verset 13. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous.
The letters, the four letters of the Hebrew. And we fill in a couple vowels so we can say it. But that's where we see the Lord written so often. But look at what this name shows.
Regardez ce que veut dire ce nom.
Where he says, I am,
quand il dit je suis, le mot hébreu, le verbe hébreu qui signifie je suis,
is not very specific.
N'est pas très spécifique.
When you say, I am,
quand tu dis je suis,
that I am, you could be
que,
saying, I was,
qui je suis,
that I was, or I was,
tu,
that I am, or I was, that I will be.
Ça peut aussi le dire, je suis celui que j'étais, ou je suis qui je serai, ou bien je serai qui je suis, ou enfin voilà.
At least those nine possibilities.
Il y a au moins 9 possibilités par ce.
Why would God say something
par cette phrase. Pourquoi Dieu dirait quelque chose de si non spécifique? Pourquoi est-ce que Dieu est très irrégulier là?
You know what I'm leading toward?
Flou. Vous savez
can
pourquoi je dis ça?
Nail God down? Can you
est-ce que tu peux
give him specifics? Can you put him in a box?
Mettre Dieu dans des limites, dans une boîte? Est-ce que tu peux même le limiter dans le temps? Je sais qui je suis qui je serai, je suis qui je suis, je suis qui j'étais. Non, tu ne peux pas. Il donne juste une petite idée de sa grandeur, de à quel point il est au-delà de nous, au-delà de nos pensées. Vous voyez l'image? Mais est-ce que ce n'est pas intéressant aussi que quand nous regardons au Nouveau Testament, quand il y a un ange qui vient chez Joseph, et Joseph, à ce moment-là, il se disait, oh là là, il faut que je divorce là de Marie, je ne peux pas rester avec elle. Et un ange vient et il lui dit quoi? Joseph, c'est de Dieu. L'enfant que Marie porte est né du Saint-Esprit. Prends-la pour être avec toi, parce que je vais donner naissance à un enfant très spécial, et tu devras nommer cet enfant Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Qu'est-ce que Jésus veut dire de manière littérale?
Jehovah saves.
Yahweh
saves.
Ou Yahweh sauve.
Now what do we have?
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a?
God invades time and space.
Dieu envahit l'espace, le temps.
He appears in our form so we can begin to really relate to him.
Il apparaît dans notre forme
pour
payer notre prix, le prix de nos péchés. Pour que maintenant nous puissions avoir une intimité et la vie avec lui. Ça, c'est proche. Au début, son nom nous donne une idée de quelque chose, de quelqu'un qui est incroyable, qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Et là, tout d'un coup, il est juste aussi proche que lointain. C'est pas impressionnant? Juste dans un nom. Ça, c'est le Dieu impressionnant que nous servons. Est-ce que ce n'est pas étonnant qu'au début de notre prière, nous disions
«
Ah, ton nom est saint et je veux être comme ça. » Mais regardez, si nous regardons simplement à ces faits, Oui, c'est ce que je crois. Non, nous n'avons pas fini. Nous avons besoin d'un autre rail à ce système. Nous allons au-delà de l'expression d'un fait. Et c'est là, sur ce rail, que nous devenons plus personnels. Oh non, non. Oh non, pasteur, tu deviens plus intime, là. Je vous aime, je me soucie de vous en tant que frère et sœur, et je veux la vérité ensemble avec vous. Nous voulons prier la vérité l'un à l'autre avec amour, comme la parole le dit. Oui, alors je vais dire la vérité avec tout l'amour que je peux. Et vous, vous faites pareil, hein. Mais venez après le potluck, hein. Moi, je veux profiter de mon repas, hein. C'est là que ça devient vraiment intime. Quand chacun d'entre nous dit « Seigneur, je le crois, je le dis, mais maintenant je veux que tu sois sanctifié, que tu sois spécial, que tu sois mis de côté pour démontrer au monde que tu es comme ça par la manière par laquelle je vis. » L'idée de sanctifier est très liée dans la parole à glorifier Dieu. Quand nous disons nous glorifions le Père, ça veut dire que nous proclamons sa différence, mais aussi par notre vie. Nous n'annonçons pas juste ça. Nous le démontrons. Ça, c'est la vraie puissance. Alors, les gens, ayez vraiment une bonne idée de qui il est, une bonne image, une bonne connaissance de qui il est. Alors, nous sanctifions sa vie, nous sanctifions son nom, pas simplement par des mots, mais aussi par nos vies. Et vous savez quoi? Quand nous rapprochons de lui, nous lui ressemblons. Quand j'entends Martha, par exemple, dire quelque chose ou faire quelque chose, et je me dis, waouh, Martha, tu sais ce que tu as fait la semaine dernière? Ça, c'était Jésus en toi. Ou par exemple, à Marion, je pourrais lui dire, tu sais, Jésus, je trouve que tu ressembles à Jésus chaque jour plus. Vous savez, si il obtient de plus en plus de liberté en nous, nous ressemblerons de plus en plus à lui. Ça ne veut pas dire que nous devons avoir des cheveux longs. Enfin, j'espère. Je ne pense pas. Ça, les amis, ça, c'est de l'adoration. Ça, c'est ce que l'adoration... Vous savez, le dimanche matin, c'est pas ça, l'adoration. Ça commence par ça, oui. Vous n'aimez pas que le groupe de louanges nous fasse ce plaisir de préparer la louange? Ça nous connecte à Dieu, c'est super. Mais c'est juste le début. C'est la vraie adoration, c'est de vivre ceci. La louange le dimanche matin, ça nous prépare à ça. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis? Alors nous venons à Abba, Papa, notre Père dans les cieux, qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que nous disons après? Rien d'autre jusqu'à ce que nous disions: oh, Papa, que ton nom soit sanctifié. Je le dis, mais je veux aussi le vivre. Pas juste mon speech, mon discours, mais aussi ma marche. Parler et marcher. Ça, c'est puissant. Alors, Seigneur, je prie que tu scelles ceci sur nos cœurs et que mon cœur fasse ce que tu veux que je fasse. Merci. Amen. Alors maintenant, j'aimerais faire quelque chose. On n'a pas fini encore. J'aimerais faire quelque chose. Si vous le souhaitez, je ne vous force pas, mais je vous dis, vous devez le faire. Tu te souviens, Moïse était dans le désert et quelque chose a capté son attention. Il y avait un buisson qui brûlait et il ne faisait que brûler encore, mais il ne se consumait pas. Moïse s'en est rapproché et qui est-ce qu'il a rencontré ? Dieu lui a parlé. Et vous vous souvenez des mots de Dieu à ce moment-là ? Et Dieu lui a dit, « Ceci est un lieu saint, enlève tes chaussures. » Bon, alors, j'espère que vous avez eu une douche ce matin. Il y a quelquefois des choses puissantes quand tu es dans l'intimité de ta maison. Des fois, faire ce genre de choses, visualiser une terre sainte, votre envie d'être à part pour lui, de marcher à part pour lui. Nous allons faire quelques minutes. Ceci, si vous voulez enlever vos chaussures aujourd'hui, ou si vous voulez être têtu, méchant, ordinaire, il n'y a pas de souci. L'important, c'est le cœur. Mais quelquefois, faire des actes comme ça nous aide dans notre cœur. Et méditons sur ça, sur qu'est-ce que ça veut dire de sanctifier son nom. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie. Laisse l'Esprit faire dans ton cœur ce que toi, tu dois entendre ce matin. Moi, je veux faire pareil. Après un peu de temps, je vais rediriger ça à la dernière étape où tu pourras remettre tes chaussures, bien évidemment. Mais entrons dans ceci de manière unie, en communauté. Nous voulons marcher sur un terrain saint. Nous voulons que là où nous allons, peu importe là où nous allons, nous marchions sur un terrain saint, un sol saint par notre manière de vivre. Parce que Dieu est mis vraiment à part dans notre cœur, dans notre pensée. Et ça fait une différence. Et c'est vraiment ça dont son nom est question. Alors, tranquillement, quand vous êtes prêt, en silence, vous pouvez vous passer du temps seul avec Jésus, à votre place ou ailleurs, et voyez ce qui se passe, et vraiment venez à Dieu avec un